Et c'est la revue de presse de Claude Ascolovitch.
France Inter, le 7-9.
Claude, ce matin, on parle des orques.
Mais attention Nicolas, pas les cétacés, comme cette belle bête que l'équipage d'un chalutier a filmé dans la Manche et dont vous verrez le portrait sur le site de 20 minutes. Non, les orques méchants, ce peuple de tueurs inventé par Tolkien dans sa saga du Seigneur des Anneaux. Et ces orques, nous dit Le Monde, sont invoqués en Ukraine pour désigner l'envahisseur russe. La semaine dernière, le maire de Makariv disait que les 132 civils retrouvés morts chez lui avaient été tués par les orques russes. Et ce ne sont pas seulement les orques, l'Ukraine se décrit comme le pacifique comté du Seigneur des Anneaux, attaqué par le Mordor, royaume maléfique. Vladimir Poutine serait Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Mais ces références ne datent pas d'aujourd'hui. Et Le Monde nous ramène à l'époque de l'Union soviétique, quand le Seigneur des Anneaux était interdit. On le lisait sous le manteau, et pour les citoyens rêvant de liberté, la quête des héros de Tolkien était une métaphore. Mais quand l'URSS éclata, les interprétations divergèrent. En Ukraine, les patriotes modernes attirés par l'Occident s'identifièrent aux Hobbits, peuple pacifique qui regarde vers l'Ouest. Mais en Russie, à contrario, des nationalistes ont retourné la métaphore et ont revendiqué le destin des orques. Un scientifique amateur de science-fiction, M. Eskov, a écrit une réinterprétation de Tolkien où les orques et le Mordor sont entraînés malgré eux dans une guerre par la coalition des elfes et des hommes. Cette distraction a muté jusqu'à devenir une narration fantasmée de la guerre en Ukraine. Ainsi nous habitent les livres. Dans le Figaro, lisez comment en Amérique des livres semblent vénéneux aux idéologues qui se déchirent dans le pays. Des ultra-conservateurs exaltés veulent chasser des écoles les livres qui évoquent l'homosexualité ou le racisme, et puis des chefs-d'œuvre qu'ils jugent subversifs. Beloved de Toni Morrison, Maus, la BD sur la Shoah de Spiegelman, mais aussi L'attrape-cœur de Salinger, Les raisins de la colère et Des souris et des hommes de Steinbeck. Mais en face, dans le camp progressiste, pour combattre racisme et patriarcat, on menace La petite maison dans la prairie, Autant en emporte le vent, Huckleberry Finn de Mark Twain et les livres pour enfants de feu le gentil Dr. Seuss, un mythe, mais qui avait le tort de dessiner des Africains en pagne et des Chinois en chapeau pointu. Pauvres livres, ce qu'on leur fait, mais on en fait aussi de belles choses.
Et on nous raconte aussi, Claude, des dissidents.
Et c'est sur le site du Monde encore, une interview de l'écrivain Gilles Silberstein, qui célèbre des lumières russes qui chacun dans son temps se dressèrent contre les absolutismes. Alors voici Lermontov, poète tué sous le tsarisme. Voici Marchenko, ancien ouvrier qui passa la moitié de sa vie en détention et fut le chroniqueur du goulag après Staline. Et ses livres sont lus aujourd'hui par les opposants à Poutine. Silberstein nous dit qu'en Russie, la flamme de la liberté ne s'éteindra pas. Dans la Croix l'Hebdo, on nous pose une question essentielle. Mourir? Pour qui? Pourquoi? Pour quelle cause est-on prêt à risquer sa vie? Alors on rencontre une jeune birmane qui lutte contre la junte, une écologiste indigène de Colombie qu'on a voulu tuer 3 fois, elle défend sa terre, et puis Zarifa Ghaffari, qui était à 23 ans maire de sa ville en Afghanistan, on a tué son père, elle a fini par fuir. Et l'on voit aussi un avocat malicieux dont on a tué les amis à Charlie Hebdo, Richard Malka, qui se dit animé par l'inconscience. Oui, chez nous aussi, la question s'est posée. Vous allez lire dans Le Parisien des habitants du Donbass qui fuient leur village en allant du côté russe. Pensent-ils plus facilement survivre ou sont-ils des traîtres? Dans La Voix du Nord, on nous suggère une autre traîtrise, peut-être est-ce une intox. Mais des proches de Marine Le Pen ont dit aux journalistes de La Voix du Nord que la candidate, pour préparer son débat face à Emmanuel Macron, serait conseillée par des membres du Printemps Républicain, association laïque qui soutient le président sortant, et par 2 députés, un LREM et un ex-LREM. C'est curieux, que faire de ce doute? Mais dans nos temps confus, tout est possible. À partir d'un meeting, la Provence ce matin affirme que Madame Le Pen n'a jamais été aussi à gauche.
Et on parle enfin de liberté d'expression.
Que l'archimilliardaire Elon Musk conçoit sans frein ni décence, lui qui considérait que le confinement sanitaire était fasciste. Et cet homme qui lance des satellites, des voitures électriques, qui veut nous réformer par des implants au cerveau, a désormais l'intention de devenir, dit le New York Times, le Citizen Kane des réseaux sociaux, puisqu'il veut acheter Twitter. Vous lirez dans Les Échos et Le Figaro la saga de l'homme et de l'OPA. Vous lirez dans Le Monde son délire potache inquiétant. Il propose par action de Twitter 54,20 $, référence au chiffre 4,20, l'heure à laquelle on fume un joint. Mais surtout Musk, qui se fait applaudir par les Trumpistes et soupçonner, s'il prend le réseau social, de vouloir abolir toute modération, cette fragile protection contre la haine et le mensonge. Dans Libération, je lis la grâce de deux contrebassistes de jazz et artistes libres. Et dans La Montagne, je lis Ahmed Benahaman, moniteur d'auto-école, mais surtout projectionniste de cinéma, l'âme du Cinoche de Bourganeuf dans la Creuse, le seul ciné de France levé dans un château. C'est chez lui, quand Musk nous tiendra, que j'irai me réfugier.
France Inter.